Bon. Bonsoir tout le monde. Nous sommes donc dans Sanhedrin Tzadik Zayin. Dans Sanhedrin Tzadik Zayin, c'est dans les lignes larges. Tania, Rabbi Nehemia, Omer. Vous avez trouvé ? Hein ? La première ligne large. Voilà, la très large. Tania, Rabbi Nehemia, Omer. Rabbi Nehemia disait Dor chez Ben David Babo, la génération où le fils de David viendra. La génération où le fils de David viendra. Ne'arim yalbinu pene zekenim. Les jeunes. Ah non, je me suis planté là. Ha'azout tirbe. L'effronterie sera abondante. Va yoker yavet. Les prix monteront. Hagefen yiten pirio. La vigne donnera ses fruits. Va yain beyoker. Mais le vin sera cher. C'est-à-dire, il y a une décadence économique également qui est liée à un mauvais fonctionnement de l'économie. Il y a beaucoup de raisins et pourtant le vin est cher. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de correspondance entre l'état de la nature et l'état de l'économie. On voit ça souvent, par exemple, dans le fait que l'économie est artificielle aujourd'hui. Par exemple, quand il y a une grande quantité de récolte, eh bien, on jette à la mer. Parce que sinon, ce n'est pas rentable, etc. Venehefra kolam malchut leminut. Et l'État deviendra entièrement hérétique. Alors c'est quoi l'État qui va devenir hérétique? Comment? Alors vous dites que c'est le gouvernement israélien. Peut-être. En tout cas, ce n'est pas du tout évident cette histoire. Il y a à ce propos différentes opinions. Je voudrais d'abord vous citer l'opinion de Rabbi Yitzhak Abravanel, qui est assez surprenante, qui est très intéressante. Rabbi Yitzhak Abravanel dit que quand on dit Hamalchut, il s'agit de la chrétienté. Et quand on dit qu'elle va devenir hérétique, cela veut dire non pas que ce n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire. Il dit que les hérésies chrétiennes se développeront, c'est-à-dire des remises en question des dogmes de la chrétienté. C'est comme ça que Rabbi Yitzhak Abravanel explique ce passage. Venehefra kol hamalchut leminut, c'est-à-dire que l'on remettra en question la tradition religieuse de la malchut. Et Rabbi Yitzhak Abravanel fait remarquer que ça a commencé de son temps. En effet, vous savez que Rabbi Yitzhak Abravanel vivait à l'époque qu'on appelait la Renaissance. Ça a commencé en particulier en Espagne et en Italie, de son temps. Et c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières remises en question des dogmes chrétiens. Et donc, c'est ça la minute en question. Maintenant, que dit Rabbi Yitzhak Abravanel? Il dit pourquoi ça doit se passer comme ça? Parce qu'on ne peut pas passer d'une fausse foi à une foi véritable sans qu'il y ait entre les deux une absence totale de foi. On ne peut pas passer de ce qu'on appelle Emunat Sheker à ce qu'on appelle Emunat Emet sans passer par ce que Rabbi Yitzhak appelle He'ader Emuna. C'est-à-dire que la laïcité, l'athéisme, c'est ça la minute dont parle la Gemara, et c'est nécessaire pour que l'humanité soit à même d'entendre le message d'Israël. Parce que si l'humanité restait dans sa foi ancienne, eh bien, le message d'Israël ne serait même pas percevable. Et donc, il faut passer par « Kol HaMalchut Leminut ». C'est ça la première interprétation, intéressante quand même, de Rabbi Yitzhak Abravanel.
Les chrétiens doivent renommer leur foi.
Exactement.
Et passer au judaïsme.
Alors justement, on ne peut pas passer directement d'une foi à l'autre. C'est ça que dit Rabbi Yitzhak Abravanel. On ne peut pas passer d'une foi erronée à une foi véritable. Il faut qu'il y ait un moment d'absence, un vide.
Il y a un tornit où les chrétiens doivent devenir juifs
dans la nuit du Machiav.
Non, il ne doit pas devenir juif. Non, ils ne doivent pas devenir juifs.
Pourquoi ?
Ils doivent passer au judaïsme, c'est pas la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a un projet religieux pour les nations qui est porté par le judaïsme, la loi Noachide et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Il y avait d'ailleurs un juif à Livourne au XIXe siècle, Rabbi Eliyahu Ben Amozeg, qui s'était occupé beaucoup de ça. Qui était très préoccupé par le problème de savoir quelle serait la religion de l'humanité dans l'aboutissement de l'histoire. Et il a écrit pour cela un livre qui s'appelle Israël et l'humanité, dans lequel il expose les grandes lignes de ce qu'on appelle la loi des Béné Noirs. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à rajouter, mais enfin, c'est l'ouvrage classique qui est le début de toute cette recherche. Ça s'appelle Israël et l'humanité. Malheureusement, ce livre a traversé plusieurs vicissitudes. D'abord, quand on voit le manuscrit et le livre qui a été imprimé, ben, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le Rav Ben Amozeg a écrit des feuilles à lui, très belle écriture d'ailleurs, j'ai vu, et c'est son élève Aimé Palière qui a mis ça en page et qui a orienté un peu le livre plus en direction du christianisme. Par la suite, dans les années 50, ce livre a été à nouveau édité, mais en résumé. On a édité un résumé plus accessible au public, parce que c'est un très gros livre, et ça s'appelle Israël et l'humanité, mais c'est déjà déformé. À part ça, cette réduction du livre a été traduite en hébreu, mais de manière tronquée et déformée au Mossad Hara Kouk, ce qui fait que l'israélien habituel n'a pas les moyens de comprendre vraiment ce que voulait dire le Rav Ben Amozeg. C'est pour ça que depuis plusieurs années, le Rav Eliyahu Zini travaille sur le manuscrit lui-même, le manuscrit originel, pour rétablir l'authenticité du texte. Voilà, ça c'est tout pour vous dire tout ça.
Pourquoi les chrétiens ils ont besoin de changer leur dogme pour que l'humanité arrive au Mashiach ?
Eh bien parce que le Mashiach, il a quelque chose à dire au goyim. Et il faut que les goyim soient capables de l'écouter.
Mais ils peuvent changer leur dogme sans renoncer à la chrétienté, sans devenir juifs.
Absolument. Absolument, il n'y a pas de...
Ils peuvent devenir s'ils sont plus chrétiens et qu'ils ne sont pas laïcs.
Ils peuvent devenir béné noirs. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant qui a été écrit à ce propos par Jean Vassal. Je ne sais pas si vous connaissez. Jean Vassal était un ben noir. Un non-juif qui revendiquait le statut de ben noir, de Gertoshav, précisément, et qui a fréquenté les cours de Manitou, Zichrono Livracha, et qui a écrit un livre, le nom dit tout déjà, « Les églises diaspora d'Israël, point d'interrogation ». Dans ce livre, il propose au monde chrétien, catholique, il propose une réforme de la chrétienté. Il propose simplement de faire quelques petits changements, c'est-à-dire de renoncer au dogme de la Trinité et de l'Incarnation, renoncer à l'idée qu'Israël n'est pas le peuple élu, renoncer également aux prières adressées aux fondateurs du christianisme, et que l'Église se reconnaisse comme étant des délégués d'Israël envers l'humanité. Voilà. Moins que ça. Rien de moins que ça. Voilà. C'est marrant parce que sa proposition, je crois, n'a pas été acceptée. C'est très bizarre. Mais enfin, c'était ça son projet. Aux éditions Albin Michel, si ça vous intéresse, le livre de Jean Vassal, d'ailleurs qui porte bien son nom. D'accord ? Bon. Donc c'est possible. En tout cas, c'est ça que dit Rabbi Yitzhak. Pour passer d'une émouna à l'autre, il faut une absence. De ce point de vue-là, donc, la perte de l'identité religieuse est un bienfait, parce que ça permet d'écouter ce qu'Israël a à dire. Il y avait d'ailleurs, beaucoup plus tardif que Rabbi Yitzhak Abravanel, il y avait un goy en Allemagne du nom de Nietzsche, j'ai entendu parler, qui a affirmé quelque chose de blasphématoire. Il disait que Dieu est mort. J'étais à son enterrement. Alors évidemment, ça a fait beaucoup de bruit. Les gens ont considéré Nietzsche comme vraiment un sale type. Mais le Rav Tzvi Yehuda Kouk faisait remarquer que le même Nietzsche qui a affirmé que Dieu est mort disait que le monde est en train de se transformer et que l'antique Dieu d'Israël est en train de revenir dans son monde et vers son peuple, et nous nous réjouirons tous de sa réjouissance. Ce qui veut donc dire que quand Nietzsche disait que Dieu est mort, il voulait dire la conception traditionnelle diffusée par le christianisme de la divinité, cette conception-là est morte. Mais la conception du Dieu d'Israël, elle, est véritable. Donc le fait que le Dieu des chrétiens est mort permet au Dieu d'Israël de se faire entendre. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif. C'est exactement ce que dit ici donc la Gemara, « Achete afer kol hamalchut leminut ». Voyez-vous ?
Pourquoi on appelle la chrétienté Malchut ?
Ben parce que c'est ça que la Guémara... À Malchut, parce que c'est Rome. En vérité, la chrétienté, c'est Rome devenue chrétienne. Donc l'interprétation de Rabbi Yitzhak Abravanel est très nette. Il s'agit de la Malchut des Romains, c'est-à-dire des chrétiens, qui va perdre sa foi, qui va devenir minute, pour pouvoir entendre la parole d'Israël. D'ailleurs, on voit qu'à l'époque de la Renaissance... il y a eu un intérêt très profond porté par le monde européen pour la tradition juive et en particulier pour la Kabbalah. Il y avait des goyim qui s'occupaient beaucoup de mystiques juives, par exemple Pic de la Mirandole ou bien Reuchlin, tous ces gens-là. N'est-ce pas ? Et même d'ailleurs, ça a été révélé récemment, Isaac Newton. Oui ? Newton qui lui a étudié la Kabbalah véritablement. Et bon, ces derniers temps, on en a parlé, hein ?
On en a parlé hier.
Encore hier ?
Oui. Le schéma Israël, pas dans ses écrits.
Oui, c'est un personnage très intéressant quand même, Newton. Bon. Voilà, donc ça c'est la première interprétation. L'autre interprétation, qui est la plus courante, qui dit que Hamalchut, il s'agit de l'état des Juifs, qui lui deviendrait Minout. Alors là, je voudrais vous raconter une petite histoire à ce propos. Vous savez que le Rav Getz, Zichrono Livracha, étudiait la Gemara de manière permanente, enfin je ne sais pas s'il étudiait, mais ce n'est pas forcément la Gemara, avec le Rav Margaliot, qui était un des grands opposants au sionisme. Et il disait tout le temps du mal, des chilonim, de l'état juif, etc. Un jour le Rav Getz lui dit, mais enfin pourquoi est-ce que... Vous, maître, vous remettez en question ce que dit la Sainte Gemara, dit Heilige Gemore. Il dit, comment moi je remets en question la Sainte Gemara? Il dit, oui, bien sûr. Parce que d'après ce que vous dites, tous les sionistes en question, ce sont des minimes, des hérétiques. Or, la Gemara dit que le temps où le Mashiach viendra, c'est le temps où la Malchut deviendra minute. Donc ils amènent le Mashiach. Alors que vous leur reprochez? Effectivement, cette remarque lui a fait réfléchir. Il a même envoyé un message au Rav Tzvi Yehuda Kouk dans lequel il demandait pardon d'avoir dit du mal de son père, le Rav Avraham Yitzhak. Bon, enfin, donc revenons à ce que dit ici la Gemara. Vene efra kol amalchut le minut, ve en tochecha, il n'y a pas de réprimande. Mais ça y est, les Rabbi Yitzhak, cela donc va dans le sens de ce que disait Rabbi Yitzhak, et c'est une braïta que nous avons vue là. Et la braïta va dans le sens de ce que dit Rabbi Yitzhak, qui est un amora, de Amar Rabbi Yitzhak, en ben David ba, achetit aper, kol amalchut, les minutes. Amar Rava maikera. Rava amène un verset pour le prouver. Kulo hafach lavan, tahor hu. Il est entièrement devenu blanc, il est donc pur. De quoi s'agit-il ? Du lépreux. La lèpre dont parle la Torah, c'est une tache blanche sur la peau. Quand on est atteint de cette tache-là, on est impur. Et plus elle s'étend, plus on est impur. Mais si la peau est entièrement devenue de couleur blanche, alors on est pur. C'est bizarre, mais enfin c'est ce que dit la Torah. Même à tel point que le jour où apparaît une tache de peau saine, basar hay, alors c'est là qu'on devient impur. C'est ce qu'on appelle le monde à l'envers. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce que c'est quoi la peau ? La peau, c'est la partie extérieure. N'est-ce pas ? Ce qu'il y a sous la peau, eh bien, c'est l'intérieur. Dans tout homme, il y a deux éléments. il y a l'élément extérieur et l'élément intérieur. L'élément intérieur, c'est ce que je suis dans mon être le plus profond. Dans mon extériorité, ce sont mes actes. N'est-ce pas ? L'intériorité du juif est toujours pure. C'est ce qu'on appelle la ségoula. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Le fils d'Israël est toujours pur. Mais, au niveau de ses actes, on peut faire des bonnes actions et des mauvaises actions. Et on est jugé par ses actes, on n'est pas jugé par son intériorité. Donc, la partie saine de la peau, elle figure les bonnes actions. Et la partie malade de la peau figure les mauvaises actions. Et le fait qu'il y a une partie de moi-même qui est pure, c'est ça qui me met en accusation. Parce que le fait que je suis capable de faire de bonnes actions, c'est la preuve que je suis capable d'en faire. Et donc, je suis encore plus coupable d'avoir fait des mauvaises actions. Donc, quand j'ai une partie blanche et une partie qui n'est pas blanche, je suis impur. Mais à partir du moment où toute la peau devient blanche, alors il y a un écart insupportable, intenable, entre l'extérieur et l'intérieur. L'intériorité est pure, l'extériorité est entièrement impure. C'est absolument absurde. Dans la situation habituelle, la partie pure de moi-même, mon être intérieur, se manifeste dans la partie de la peau qui reste entière, qui reste intacte. Mais là, il n'y a aucune manifestation de l'intériorité. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas juger selon l'extériorité, mais selon l'intériorité. C'est pour ça que dit la Guémara, « Kulo hafar lavan taoru », ça explique pourquoi le Mashiach ne peut venir que lorsque toute la malchoute devient hérétique, parce que c'est là qu'on découvre à quel point le peuple juif est pur dans son intériorité. À la limite, ça n'a aucune importance. On peut même voter pour les datines. Même pour les datines. D'accord ? Mais je vous ai raconté l'histoire du Rav Zeitlin qui est venu en Eretz Israël. Je ne vous ai pas raconté, tu te rappelles de ça ? Très belle histoire. Le Rav Hillel Zeitlin, vous avez connu quand même ? Vous avez entendu parler ? Non, le Rav Hillel Zeitlin était un Rav très important qui avait grandi dans une famille Chabad qui après est devenu Triloni. Et qui après a fait Teshuva. Il était en Pologne. Il venait de temps en temps en Eretz Israël. Il rencontrait ici les grands maîtres d'Eretz Israël à l'époque du mandat britannique. Par la suite, il est reparti en Pologne et il est mort dans la Shoah. Son fils était le poète Aharon Zeitlin, bien connu. En tout cas, donc, le Rav Hillel Zeitlin est une fois arrivé en Eretz Israël. Et puis, il était assez époustouflé de voir que la transgression du Shabbat et tout le reste. Il s'est rendu directement chez le Rav Yosef Chaim Zonenfeld. J'ai raconté, vous vous rappelez cette histoire ? Non. Bon. Le Rav Zonenfeld était le chef de ce qu'on appelle aujourd'hui les Naturei Karta. Il va voir le Rav Zonenfeld, il lui dit « Kvod Arav, je trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. On voit comment le pays est construit par les pionniers. C'est vraiment merveilleux. » Réponse du Rav Zonenfeld, pas du tout. Au contraire, ils transgressent le Shabbat, ils ne mangent pas kasher, ils vivent dans l'impureté. Il est vrai que le Rav de Yafo, vous parlez du Rav Kook, les rapproche, mais moi, je les considère comme des hérétiques. Le Rav Zeitlin demande, enfin, Kvod Arav, c'est peut-être vrai, mais c'est quand même pas, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'ils reconstruisent le pays d'Israël. Réponse du Rav Zonenfeld, c'est vrai, il y a certainement... C'est ta sœur-là que tu arrives ? Hein ? Bon, alors dis, c'est pas grave, alors. Alors, il dit, Kvod Arav... ce que lui répond donc Rav Zonenfeld, dit, c'est vrai, il est certain que Akadosh Baruch Hu a une intention dans cette histoire, et que ce n'est pas pour rien qu'ils sont revenus ici. Mais tout cela appartient au Nistar, à la partie secrète de la Torah. Or, quand il y a une controverse entre le Niglé et le Nistar, entre la partie cachée et la partie révélée, on va selon le Niglé. Et selon le Niglé, ce sont des hérétiques. Bon, que fait le Rav Zeitlin ? Il se rend chez le Rav Kook. Il lui dit, Kvod Arav, je suis absolument estomaqué, je vois que c'est un pays qui est plein de transgresseurs du Shabbat, on ne mange pas cachère, Les gens vivent dans l'impureté conjugale, etc. C'est absolument effroyable ce qui se passe ici. Réponse du Rav Kook, tais-toi. Ils construisent Eretz Israël, ils amènent le Mashiach, de quoi tu parles? Réponse du Rav Tzaitlin, mais enfin, Kvod Arav, c'est une marloquette entre le Niglé et le Nistar. Quand il y a une marloquette entre le Niglé et le Nistar, on va selon le Niglé. Réponse du Rav Kook, c'est vrai, sauf à l'époque du Mashiach. Parce qu'à l'époque du Mashiach, on juge la génération en fonction de son intériorité et pas en fonction de son extériorité. Alors c'est ce qu'il dit ici, c'est ce que dit la Gemara. Kulo afar lavan taoru. D'ailleurs, c'est ce que dit également le Zohar. Le Zohar dit que la génération du messianique ressemble à quelque chose qui est doux à l'intérieur et piquant à l'extérieur. Ouais, ça veut dire quelque chose. C'est bon à l'intérieur et mauvais à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut avoir des yeux pour voir la nature véritable de la génération messianique. D'accord ? Eh bien, tout ça, on peut le retrouver finalement dans ce court enseignement de Rava. Amar Rava, Maikera, Kulo Afar Lavan, Taor Hu. Voilà. Tanu Rabanan. Nos sages ont enseigné. Qui a dit Hashem Ammo, Vegomer. Ça veut dire quoi, Vegomer ? Etc. Donc ça veut dire. Non, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand la Gemara cite un verset et qu'elle dit Vegomer, souvent, il faut lire le verset tout entier parce que souvent la Gemara parle de la fin de la citation, pas du début. Alors je vais lire le verset tout entier. Qui a dit Hashem Ammo, Dieu jugera son peuple, Val Avadav Yitneham, il se consolera pour ses. Il se reprendra en faveur, d'Abriout, en faveur de ses serviteurs. Kir et Kiaz Latiad, car il verra qu'il n'y a plus de main, Vefes Atsur Veazouv, et que personne n'est retenu et soutenu. C'est-à-dire que, d'après ce que dit ici la Torah, il y a un moment où la Géoula vient parce qu'il n'y a plus le choix. Ça va tellement mal, il faut absolument s'en occuper. Alors donc je reprends ici le verset Tanur Avalan Kedin Hashem Amo Vegomer, Kir et Kiaz Latiad, Vefes Atsur Veazouv. Ce qui est interprété par la Gemara, En Ben David Ba, Achi Yirbu Hamasorot. Le fils de David ne viendra que lorsque se multiplieront les Masorot. Masorot, ça veut dire les traîtres. Oui, Masor, c'est quelqu'un qui donne la propriété des Juifs aux Goïm. C'est du mot Limsor. C'est un truc qui a existé pendant toutes les générations. Il y a une halakha qui est que le Moser est passible de mort. C'est un truc qui se faisait dans les communautés, par exemple. Imaginez que vient le préposé aux impôts. Il arrive dans une communauté juive et il dit « Vous devez payer comme impôt tant et tant. » Le juif dit « Je n'ai rien à la maison. Vous pouvez rien prendre, j'ai rien. » Vient un autre juif et dit « Oui, mais il a une vache là-bas dans le champ. » Ça s'appelle ça « Moser » ou bien « Massour ». D'accord ? C'est-à-dire celui qui livre les biens des juifs au goyim. C'est ce qu'on appelle le « Moser ». Du point de vue de la halakha, on a le droit de le tuer tant qu'il ne l'a pas fait. C'est-à-dire pour empêcher qu'il le fasse, on peut le tuer. Hein ? Oui, on sait qu'il a l'intention de le faire. S'il a déclaré qu'il allait le faire, alors pour l'empêcher, on le tue. Mais s'il l'a déjà fait, il n'y a plus rien à faire, donc on ne le tue pas. C'est très bizarre cette halakha, parce que ça se fait sans tribunal. Sans témoin, sans rien.
S'il a dit devant une personne ?
Oui, la personne en question, elle peut le tuer. Que ? Ah, mais on s'en fiche complètement de la teshuva, on veut sauver l'argent des juifs. La vache est plus importante. Non, ça veut dire quoi ? C'est un axe, si vous voulez, de patriotisme. C'est-à-dire, si tu nous livres au goyim, alors tu es désolidarisé de nous. Alors on le zigouille, quels que soient ses mérites. D'accord ? Il y a des cas, d'ailleurs, il y a des textes de la halakha qui racontent que des choses pareilles ont été faites. Oui. Il y avait des cas où c'était pire. On donnait des enfants. C'est-à-dire, à l'époque, à l'époque, ça s'appelait les cantonistes en Russie. Il y avait. Comment ça s'appelle? Les Gaïès. On enrôlait des enfants dans l'armée russe. Ils partaient à l'armée pour 25 ans. S'ils arrivaient à survivre dans les conditions terribles dans lesquelles ils vivaient, alors ils étaient complètement déjudaïsés, ils revenaient après 25 ans à la maison, ils ne se souvenaient de personne. C'était une catastrophe. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y avait toujours un certain quota. Il fallait tant et tant d'enfants. Il y avait dans les communautés, il y avait des juifs qui collaboraient avec la police tsariste. C'était donc des mosrim en question. Il y a eu un cas d'ailleurs à Kovno, au temps de Rabbi Yitzhak Elchanan Spector de Kovno. Il y avait un cas comme ça. Il y avait un type qui livrait les enfants à la police tsariste, mais qui était très respecté dans le village parce que tout le monde avait peur de lui. Et à Kol Nidre, à Kippour, il était évidemment assis à côté du Rav. Évidemment, il avait sa place d'honneur. Et au moment, mais vous savez qu'à Kol Nidre, tout le monde est enveloppé de talit, surtout chez les Ashkenazim, c'est un truc très fort comme ça, on est enveloppé dans son talit. Alors, paraît-il, des gens se sont approchés de lui, l'ont enveloppé encore mieux, et l'ont jeté dans le fleuve. Par la suite, la police est arrivée, il a dit qu'est-ce qui se passe, etc. Le Rav Spector a dit, je ne sais pas de quoi il s'agit, moi j'étais en prière, je n'ai pas vu. Quelques jours plus tard, le personnage en question apparaît en rêve, après sa mort. Il apparaît en rêve au Rav Yitzhak Elchanan Spector, et lui dit, mais enfin, c'est vrai, vous avez fait ce que dit la Torah. Mais pourquoi à Kippour? Donc, c'est-à-dire... Oui.
Par rapport à Hérode qui aurait... J'étais sur Bretagne et Teglit, et nous ont amené au Mont Arvel, je pense, là où il y a les caves. Ils ont dit qu'il aurait dit aux Romains, donnez-moi une légion, et je m'occupe des Juifs, et ils auraient escalade, genre...
Oui, il avait effectivement maté une révolte juive de manière sanglante dans Galilée.
Oui, donc lui, il aurait été compris...
Non, c'est pas dans le cas du Moser, c'est autre chose. C'est une autre forme de traître. C'est pas le Moser classique. Le Moser classique, c'est celui qui livre au goyim quelque chose. Et en tout cas, donc, ce qui est très... Mais d'ailleurs, la Guémara raconte cette histoire. Comment est-ce que Hérode a été jugé au tribunal, enfin, cette histoire. En tout cas, les Massorotes en question, la Guémara nous dit qu'au temps du fils de David, se multiplieront les Massorotes. Donc les Massorotes, ceux qui vont livrer les biens du peuple juif au goyim. Et ceci pourquoi? Eh bien, pour faire plaisir au goyim. Ça peut se faire d'ailleurs parce qu'on pense que c'est bien pour le pays, mais ça n'empêche pas que c'est quand même une messira, n'est-ce pas? Donc c'est ce genre de phénomène qui va se multiplier. Quoi? Ça s'est passé déjà plusieurs fois. Davar Acher, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, moi non plus. Bon. Je ne sais même pas à quoi tu fais allusion. Davar Acher.
Je crois savoir.
Ah bon. Davar Acher, Hachi Itma'atu Atalmidin. Autre opinion, jusqu'à ce que se diminuent les élèves.
On n'y est pas. Hein.
Comment?
On n'y est pas. Hein.
On n'y est pas. Ça veut dire quoi, se diminuent les élèves?
Par qualité.
C'est ça. C'est les élèves qui se diminuent. Ouais. C'est pas le nombre d'élèves. Davar Acher, Hachi Tichle Pruta Minakis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Davar Acher, non mais c'est vrai que la Pruta a été annulée, a été remplacée par l'Agora. Davar Acher, Hachi Itiashu Minagiouna, jusqu'à ce qu'on soit désespéré de la Gioula. Ça, Baruch Hashem, nous avons eu pas mal d'occasions de ce genre, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a un rétrécissement des horizons. C'est-à-dire, on n'est pas capable de voir avec envergure, d'étudier la Torah avec envergure. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'efes atzur ve'azuv kivyachol en somer ve'ozer le'Israël. Kiha de Rabbi Zera, cela correspond à ce qui s'était passé avec Rabbi Zera. qui avait Mashkach Rabbanan de Meras Kebe, lorsqu'ils voyaient les Chachamim qui s'occupaient des choses du Messie. Ils étudiaient des Sugiot parlant du Mashiach. Amar Lehu, il leur disait, Be Matuta, je vous en prie, Ba'ina Minaychu, je vous demande, La Terachakua, ne l'éloignez pas, la Geoula. Netanina, parce qu'on enseigne, Shlosha Ba'im Be Sahadat, trois viennent par inadvertance. Ve'elouen, les voici. Mashiach, le Messie, Metia, une trouvaille, Ve'akrav, et un scorpion. Il y a les trois choses qui arrivent sans qu'on fasse attention. Une trouvaille, vous voyez dans la rue, un objet trouvé. On ne l'a pas fait exprès, on l'a trouvé. Un scorpion, on ne le cherche pas non plus, il arrive tout seul, et le Mashiach. Alors certains disent, ça veut dire que lorsque le Mashiach vient, il y en a pour qui c'est comme une trouvaille, il y en a pour qui c'est comme un scorpion. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a des réalités qui sont très loin de la perception des hommes. Donc ça ne peut pas venir de manière réfléchie. C'est comme par exemple, vous savez, les gens qui tirent à l'arc ou au fusil, les tireurs, ils savent que si on vise trop bien, on rate. Vous savez ça? Il faut laisser une certaine marge de un peu de lâche. Et alors là, ça marche. D'accord? C'est la même chose. Si on définit trop le Mashiach, alors il ne viendra pas. Parce que le Mashiach relève d'une catégorie d'êtres qui est très loin de la nôtre, et donc on ne peut pas totalement envelopper, comprendre entièrement dans notre esprit ce que ça représente. Donc si on a une représentation trop précise, alors il ne vient pas. Vous voyez ?
C'est bizarre, ça fait des fois, je ne comprends pas comment il va, quels sont les signes pour qu'il arrive, et tout d'un coup, ça viendra sans qu'on y prête attention.
Ah oui, absolument. Mais une fois que ça arrive, ça arrive. Oui, alors j'explique. Attention. Oui, mais le Rambam nous dit que ce n'est que lorsque ça se passera qu'on saura que ça devait se passer comme ça. C'est-à-dire que les signes avant-coureurs en question, on n'y comprend rien en vérité. Il faut vivre le moment où ça se passe pour comprendre de quoi il s'agit. Mais une fois que ça se passe, ça se passe. D'accord ? Amar Rav Ketina. Alors là, nous passons à un texte plus large, qui parle ici de l'ensemble de l'histoire. Amar Rav Ketina, Rav Ketina disait Shit alfe shane have alma. Le monde dure 6000 ans. Vehad haruv, et pendant un millier, il est détruit. Shene emar, venisga vachem levado bayomahu, ainsi qu'il est dit, Dieu sera seul, exalté en ce jour. Ah bon? Ça veut dire quoi que l'histoire doit durer 6000 ans? Ben c'est normal que ça dure 6000 ans. Combien de temps ça a demandé pour créer le monde? 6 jours. C'est-à-dire quand Dieu travaillait, ça lui prenait 6 jours. Depuis, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. C'est son 7e jour. Qui c'est qui travaille depuis? C'est nous. Alors ça doit nous prendre le même temps que ça lui a pris à lui. Parce que ces 1000 ans sont pour nous comme un jour du Créateur. C'est-à-dire, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour du passé. C'est quoi un jour du passé? C'est les jours de la création. Ça veut donc dire que les 6 jours de la création sont le plan des 6000 ans d'histoire. Comment? C'est dans Tehilim. On le dit le matin de Shabbat, avant Baruch Shem Amar, quand on arrive à l'heure. D'accord ? Hein ? D'accord ? 8h15 ? Oui, 8h15 ? À peu près, ouais, ça, vers 8h15 ici. D'accord. Donc, il y a donc 1000 ans qui correspondent à 6 jours de création. Évidemment, les jours de la création du monde ne sont pas des jours dans le temps. D'accord ? Ce sont 6 niveaux d'expression de la volonté du Créateur. Mais pour nous, dans le temps, ça se traduit comme étant 6 millénaires. D'ailleurs, on voit très bien que Dieu a dit à Adam Arishon, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Il est mort à quel âge ? 930 ans. Donc, ça veut dire qu'il avait bien presque 1000 ans pour vivre, puisque le jour où il a mangé, il est mort. D'accord ? Donc, c'est ça les 6000 ans d'histoire.
Plus il les a donnés à David.
Hein ?
Plus il les a donnés, les 70 ans.
Il les a donnés 70 ans. Il aurait dû vivre 1000 ans, et le Midrash dit qu'il a donné 70 ans. Non, si c'est vraiment sérieux ce que dit la Guémara, alors ça voudrait dire que l'on peut savoir ce qui va se passer dans l'histoire. C'est-à-dire, pour savoir ce qui doit se passer pendant les premiers 1000 ans, eh ben, il faut voir ce qui s'est passé dans le premier jour de la création. D'accord ? Et ainsi de suite. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans quel jour ? Cinquième ou sixième ? Décide.
Sixième.
Sixième ? Hein ? Sixième. Donc vous êtes tous d'accord ? Alors on va à l'unanimité. Nous sommes dans le sixième jour de la création, de notre création. Nous sommes donc dans l'an, dans le sixième millénaire. Qu'est-ce qui a été créé pendant le sixième jour ? L'homme. C'est-à-dire la venue du Mashiach, l'homme par excellence, ça se passe pendant le sixième millénaire. Très bien. Maintenant, vous savez que dans les six jours de la création, il y a à chaque fois une nuit pendant laquelle il ne se passe rien, et une journée pendant laquelle il se passe quelque chose, c'est-à-dire 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Donc, le premier millénaire, il ne se passe, la première moitié du millénaire, il ne se passe rien. Si vous étudiez un peu l'histoire, ça vaut la peine, vous verrez que tous les événements importants, significatifs dans l'histoire, ont toujours eu lieu dans la deuxième moitié de chaque millénaire. Et que dans la première moitié, il ne s'est rien passé de significatif. J'ai fait une fois une liste assez surprenante. Oui ? L'expulsion des Juifs d'Espagne, ça s'est passé à minuit. Ça s'est passé à minuit. 1492.
Mais encore, quand Maïmonide a dû quitter l'Espagne, c'était au début du 11e...
Oui, mais ça, c'est pas un événement significatif. Par contre, l'expulsion... Comment ?
Les Juifs étaient renvoyés par les musulmans.
Non, mais ça, c'était quelque chose de tout à fait secondaire. C'était encore avant que l'Espagne devienne quelque chose de très grand. Mais l'expulsion des Juifs d'Espagne, la grande expulsion, celle d'Isabelle et Ferdinand, ils marchent chez Van Wuzirra, ça s'est passé en 1492, c'est l'année Resh Nun Bet, du sixième millénaire, c'est-à-dire en l'an 5252. Le Khurban du Bayt Sheni, ça s'est passé pendant la deuxième partie du quatrième millénaire. Ouais. Hein ? Ça s'est passé en 3828. Le Khurban Bayt Sheni. Hein ? Je rigole pas, c'est vrai. En 3828, c'est-à-dire pendant la deuxième partie du quatrième millénaire. Ce qui correspond à l'année 68. Parce que nous comptons à Tisha B'Av, on compte à partir de l'an 68. N'est-ce pas ? Qui est l'année 3828. Contrairement à ce qui est écrit dans les calendriers,
ouais.
Où il compte à partir de l'année 70. D'accord ? Maintenant, pour savoir qui a raison, c'est pas si simple, mais enfin, ça demanderait un développement. Parce que comment est-ce qu'on a calculé exactement cette année-là ? Enfin, pour revenir à nos moutons, il y a donc dans chaque fin de millénaire, il se passe des choses importantes. Donc, si vous prenez... À partir de l'année 5500 jusqu'à l'année 6000, vous avez 500 ans pendant lesquels il se passe des choses importantes. Il se passe la création de l'homme. Or, ce que dit la Guémara, c'est que le sixième jour a été divisé en 12 parties, ce sont 12 heures. Une heure, donc, c'est 41 ans et 8 mois. 41 ans et 8 mois, ça vous donne une heure. Hein, c'est vrai. Vous avez qu'à couper 500, ça vous donne comme ça. 500 divisé par 12. Ça fait 41 et 2 tiers. Donc 2 tiers, c'est 8 mois. Et ce que dit la Guémara, c'est que lors de la première heure, la poussière de Adam Arishon a été réunie du monde entier. Lors de la deuxième heure, sa poussière a été pétrie. Lors de la troisième heure, ses membres ont été formés. Lors de la quatrième heure, un souffle lui a été insufflé. Et lors de la cinquième heure, il s'est levé. Ce qui vous donne l'année 5708, qui est l'année de la fondation de l'État d'Israël. N'est-ce pas? Hein? Bien sûr qu'il y a d'autres étapes. Maintenant, ça, c'est très vrai. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Oui. C'est le Gaon de Vilna qui a fait ce calcul. Pour dire quand est-ce que viendrait la Géoula. Il a dit, t'as qu'à faire le calcul, tu sauras quand viendra la Géoula. Mais il dit, je fais jurer au nom du Dieu d'Israël, le lecteur, de ne pas le révéler. Ineni mashbia et akore beloé Israël chez l'oegalézé. Et on raconte qu'à Vilna, il y avait là-bas deux rabbins qui ont révélé ce secret et qui sont morts deux jours plus tard. Hein? Dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux. Le problème, c'est que ça, je l'ai enseigné déjà plein de fois. Et je suis encore vivant.
C'est après.
Oui, justement. Une fois que c'est passé, c'est passé. D'accord? Ne craignez rien. Sait-on jamais. En tout cas, donc, c'est ce qui s'est passé. C'est donc qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire en étudiant ce qui se passe dans les 6000 ans. Donc, à la limite, on peut se dire que l'histoire est programmée à l'avance.
C'est étonnant ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Comment est-ce qu'il peut enseigner quelque chose en disant de ne pas répéter?
Non, parce que le Gaon de Vilna ne dit pas comment ça se passe. Il dit, si tu prends le texte de la Guémara et que tu compares aux 6000 ans, ça, tu sauras. D'accord? Mais il y a un autre texte, également d'un élève du Gaon de Vilna, ramené dans un livre d'un certain Morgenstern, qui s'appelle Geoula Derateva, raconte que en 1840, vous savez qu'à Jérusalem, il s'est passé quelque chose de catastrophique en 1840. Les élèves du Gaon de Vilna étaient persuadés qu'en 1840, le Mashiach viendrait. Le Mashiach n'est pas venu. Alors, ça a découragé une partie d'entre eux. Quelques-uns se sont convertis au christianisme. Deux ou trois se sont convertis au christianisme. Et bon, il y a eu beaucoup d'effets à cette histoire-là. C'est une des raisons d'ailleurs de l'antisionisme des habitants de Mashiarim, ça venait de ça, parce que ce sont les descendants de ces gens-là. Et il raconte, enfin, ce fameux Morgenstern ramène une lettre qui a été envoyée par un élève du Gaon de Vilna, qui habitait à Londres, qui a été envoyée à un de ceux qui s'étaient convertis au christianisme. Il lui a dit, c'est dommage que tu t'es converti au christianisme, parce que tu ne sais pas que d'après nos maîtres, il parlait donc du Gaon de Vilna, Le même temps qui doit passer entre la création d'Adam Arishon et la naissance de David Ameler, c'est le temps qui doit passer de la naissance de David Ameler jusqu'à la Géoula. Parce que Adam, c'est les initiales de Adam, David, Mashiach. David donc est au milieu de l'histoire. Et donc entre Adam et Mashiach, David se trouve la naissance du roi David. Donc tu n'aurais pas dû te convertir au christianisme. C'est ça ? C'est ce qu'il lui a dit. Ça vous donne quoi? Ça donne 5708. C'est-à-dire la fondation de l'État d'Israël. C'est-à-dire que cette date était connue. Et bien sûr qu'ils se sont trompés. Ils ont mal compris l'enseignement de leur maître. Voilà. Dommage. Bon. Hein? Il y a des gaffes. Oui, bien sûr. On fait toujours des gaffes. Mais c'est pas nouveau, parce que ça s'est passé comme ça lorsque Moshe a dit qu'il allait revenir de la montagne. Il y a une erreur dans le calcul qui a entraîné le Hegel. Et c'est quoi l'année 1840? C'est l'année 600. 5600. Or, c'est ce qui est écrit. Vayaram ki boshesh Moshe lavo. Le peuple a vu que Moshe était en retard. Boshesh, bashesh. Il était venu la sixième heure, il n'était pas venu. Ils ont fait le Hegel. Donc, bashesh, bashesh meot. Est venu l'année 600. Et donc, certains font le Hegel. Donc, c'était prévu aussi à l'avance, cette histoire. Ouais. Bon, revenons donc à nos moutons là. Les 6000 ans en question. Donc il y a 6000 ans d'histoire. Ça veut dire quoi 6000 ans d'histoire? Il y a 6000 ans pour réaliser le projet dont parle la Torah. Le projet en question étant Kedoshim Tihyu. Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce que disait le Rabbi Lubavitch, c'est très intéressant à ce propos. Le Rabbi Lubavitch disait qu'en 1948, à Kadosh Baruch Hu a proposé au peuple juif de choisir soit l'État d'Israël, soit le Mashiach. Et les juifs ont choisi l'État d'Israël. Ils auraient dû choisir le Mashiach. Ça a été écrit en toutes lettres par le Rabbi de Lubavitch. Maintenant, si on revient dans le Rambam, qu'est-ce que dit le Rambam? C'est quoi Yemot HaMashiach? Il dit « Hu hazman shebo tashuv amalchut et Israël ». C'est le temps où reviendra la souveraineté au peuple juif. Non, on attend. On attend Melech HaMashiach. C'est-à-dire, le Rambam fait la distinction entre deux événements, entre deux phases. Une qu'on appelle Yemot HaMashiach et une qu'on appelle Yemeh HaMelech HaMashiach. C'est explicite dans le Rambam. Eh bien, ça, on attend. On n'a pas encore le Melech HaMashiach. Mais Yemot HaMashiach, Baruch HaShem, ça a déjà commencé. Une fois, quelqu'un a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kouk, quand est-ce que viendra le Mashiach? Il a répondu, il est déjà un peu venu. Kvar Ktat Ba. Donc c'est ça, donc, les 6000 ans d'histoire. Vehad Harouv, et il y en aura un où il sera détruit. Ça veut dire quoi que le monde sera désolé, détruit, Harouv? C'est pas sympathique, ça voudrait donc dire qu'il y a 1000 ans de catastrophe. C'est ça qu'on attend. Alors Maïmonide, dans le Moré Nevouchi, m'explique que ça ne veut pas dire que le monde sera détruit, ça veut dire qu'il sera vide de guerre. Ça veut dire qu'il y aura la paix. Parce que c'est ça le Khurban. Le Khurban, c'est quand il n'y a plus d'activité. Or l'activité centrale de l'histoire, c'est les guerres. Et bien cette activité va cesser. Pendant 1000 ans. Comment? Hein? Non, ça va se passer. Il y a 6000 ans, et encore après, il y a 1000 ans, non. Regarde ce qu'il y a écrit. Shit alfe shane ave alma, vehat harouv. Il y en a encore, hein, où tout, il y aura la paix. C'est ça? Had harouv. Shedemar, ainsi qu'il est dit, v'nisgav Hashem levado. Bayom ahou. Dieu sera seul exalté en ce jour. C'est-à-dire que Dieu sera seul exalté par l'homme, évidemment. Ça veut donc dire que le monde n'est pas détruit. Ça veut dire qu'il y a une période de tranquillité. 1000 ans de tranquillité. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là qu'il peut y avoir un débat. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait une histoire cyclique, qu'après 1000 ans, ça reprend, ça devient mal, à nouveau. À moins qu'on passe à une autre phase de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans de tranquillité historique, et puis après, on arrive à un autre enjeu. C'est-à-dire qu'on passe d'une phase à l'autre. Ça s'appelle ça correspond à une certaine théorie des kabbalistes, ce qu'on appelle la Torah Tashmitot, la doctrine des Shemitot. La doctrine des Shemitot était celle de Rabbi Nahumnia ben Akana, un des Tanaïm. Et d'ailleurs, le Hari n'est pas d'accord avec cet enseignement, mais enfin, ça vaut quand même la peine d'être cité. D'après le Sefer Akane et le Sefer Atmuna, qui sont des livres kabbalistiques antiques, on affirme que l'histoire serait faite de chouliot, de chaînons de 7000 ans chacun. De maillons, voilà. Il y a des maillons, 7000 ans, et après 7000 ans, encore 7000 ans. Mais chacun correspond à un autre enjeu. Et ça correspondrait par exemple à la... Quoi? Un chaînon? On dit aussi un chaînon. Oui, bien sûr. Je monte dans le dictionnaire si tu veux. Ouais, un chaînon. Ouais. Ouais, un chaînon. Voilà, chez nous, voilà. Ouais. Donc, d'après l'opinion du... Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il a dit? Petite chaîne. Oui. Non, c'est une négation auvergnate.
D'accord?
Hein? Exactement. Bon, alors si je peux continuer, ça serait important quand même. Les 6000 ans en question seraient une des Shemitot. Il y aurait donc 7000 ans et 7000 ans et 7000 ans. Et chaque Shemita correspondrait à une autre Sphira. Vous savez, le principe des Sphirot dans la Kabbalah, ce sont des émanations divines. Une qui correspondrait au Chesed, et après Gevura, Tiferet, Netzar, comme dans les 7 semaines du Homer, au moment dans les Sidurim, que chaque semaine correspond à une autre Mida. Et d'après certains kabbalistes, notre Shemitah à nous, notre histoire dans laquelle nous sommes, serait la deuxième. Et c'est pour, qui correspond donc à Gevura, et c'est pour la raison pour laquelle il y a tant de guerres. Mais, après les 7000 ans en question, alors on passerait à une autre Shemitah, celle de Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est la Torah. La Gemara dit Tiferet des Matan Torah. Et donc, dans chaque histoire, se profile le projet de l'histoire à venir. Donc, qu'est-ce qui nous dépasse à nous, dans notre monde à nous? C'est la Torah. C'est pour ça que nous sommes dans la Gevura et que notre idéal, c'est Tiferet. Quand on sera arrivé à Tiferet, eh bien l'idéal, ce sera Netzar. Et ainsi de suite. D'accord ? C'est une manière de voir les choses. C'est ça ? Mais si c'est vrai ce que je vous dis là, ça voudrait donc dire également qu'il y a une histoire faite de Yovel aussi. C'est-à-dire de même que vous avez la Shemitah tous les 7 ans, donc ça veut dire tous les 7000 ans, ça voudrait donc dire aussi qu'il y a un Yovel de l'histoire. C'est-à-dire tous les 50000 ans, s'achève une unité du monde. Combien d'unités de ce genre il y a ? Combien de fois, combien de Yovel y aurait-il ?
Oui ?
Pourquoi un problème ?
Parce que la Torah a été donnée dans ces 7000 ans.
Oui, c'est-à-dire que la Torah aurait un projet qui correspondrait à cette histoire-là. Ce qui se passe dans l'histoire à venir, c'est tout à fait autre chose. Ça serait une autre Torah, enfin une Torah plus, la même, mais plus approfondie. Ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres dimensions qui nous sont cachées aujourd'hui, qui se manifesteront à ce moment-là. C'est une autre manière de vivre la réalité. C'est un peu le Olam Haba. Pour nous, c'est comme le Olam Haba. Oui. Ah oui, il n'y avait pas la Torah. Il y avait peut-être la Torah de l'époque. C'était le temps du Chesed. C'est vrai que la Torah a été donnée à un certain moment. Même dans notre histoire à nous, elle n'a pas été donnée au départ. Elle est donnée en l'an 2448. Enfin, si on admet ce compte-là. Et donc, il y aurait des unités de 50000 ans. Et combien il y en aurait ? Il y a un texte dans la Gemara, dans Avodah Zara, qui dit que Dieu possède 18000 mondes. Donc si vous prenez 18000 et que vous multipliez par 50000, ça vous donne 900 millions d'années. Pour l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Ce n'est rien par rapport à l'éternité. C'est presque 1 milliard. C'est quand même pas mal. Enfin, on verra bien dans 1 milliard d'années ce qui se passera avec le système solaire. Une fois, un astronome a dit dans une conférence, dans 1 milliard d'années, le soleil sera éteint. Alors un type effrayé dit, vous avez dit 1 milliard ou 1 million ? Il y a des réalités qui nous dépassent. D'accord ? En tout cas, c'est ça qui est écrit ici. Abaye à Amar, Abaye n'est pas d'accord. Il dit, très harou, il y aura 2000 ans de tranquillité. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, yehayenu miyomaim, il nous ressuscitera après 2 jours, Bayom Hashelishi et Kimenu Venirhye Lefanav, et lors du 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est-à-dire que pour Abaye, le temps messianique est une 4e phase de l'histoire. C'est-à-dire il y a 2000 ans, 2000 et 2000, et encore 2000, ce qui veut dire en tout 8000. C'est-à-dire que pour Abaye, vient un moment de l'histoire où on dépasse la nature, le chiffre 8, correspondant toujours à ce qui dépasse la nature. Mais, dit la Gemara, Tanya kvate de Rav Ketina, on enseigne dans la Braïta comme Rav Ketina, Keshem shashivirit meshamet et shana achat les shevashanim, de même que la Shemitah vient tous les 7 ans, kaha olam meshamet elef shanim les shivrat alefim shana, le monde est en Shemitah, 1000 ans sur 7000 ans. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Venis gav Hashem levado bayom ahu, Veomer, et un autre verset dit, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est un cantique en l'honneur du Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. Un jour qui est entièrement Shabbat. C'est quoi un jour ? Ben c'est 1000 ans. Parce qu'il est dit, Veomer, ki elef shanim be'aynecha, ki yom etmol ki yavor, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour qui est passé. Donc c'est dans Tehillim, tu vois, on a cité le verset. Bon. Tana de Be Eliaou. On a enseigné dans le Beit HaMidrash de Eliaou Hanavi. Sheshet alafim shana aver alma. 6000 ans dure le monde. Shnei alafim tohu. 2000 ans de tohu. C'est quoi tohu ? De chaos. C'est quoi le chaos ? Ça ne veut pas dire un monde sans nature. Ça veut dire un monde sans finalité. Évidemment, pendant les 2 premiers millénaires de l'histoire, le monde évolue. Il y a une civilisation qui se construit, on invente l'écriture, et tas de choses se passent. La technologie. Mais on ne sait pas vers où ça va. Et il n'y a pas de sens, dans les 2 sens du mot, à l'histoire. Il n'y a pas de direction. Après viennent Alpaim Torah. Il y a 2000 ans pendant lesquels la Torah est donnée. Et donc on apprend quel est le sens du monde. Ça commence avec Abraham Avinu, qui en l'an 2000 avait 52 ans. En quelle année donc est né Abraham Avinu ? 1948 de la création du monde, c'est pas la même chose. Et après, Alpaim, Yemot, Amashiach, et après il y a 2000 ans de temps messianique. C'est-à-dire, le Mashiach peut venir pendant ces 2000 ans-là. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Tu es si fatigué que ça ? Tu prends un peu de jus, ça sera du bien. Ouais, ça sera du bien. Donc, il y a 2000 ans de chaos, 2000 ans de Torah, 2000 ans d'Yemot Amashiach. Quand est-ce que finissent les 2000 ans de Torah ? Dans l'an 4000, tout bête. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'an 4000 ? Eh bien, la Torah, le Tanakh a été entièrement donné, ainsi que la Mishnah, et ainsi que l'œuvre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est devenu le Zohar par la suite. C'est-à-dire, tout ce qui devait être donné, a été mis en place. Comment ? La Gemara, non. La Gemara, c'est plus tard. C'est-à-dire que les 4000 ans finissent au milieu de l'époque des Amoraïm. Hein ? Non, le christianisme, c'est en l'an... disons, quand est-ce qu'il est né celui-là ? Il est né en 3000... non, 3700 quelque chose. Ouais. Hein ? 3760. Voilà. En 3760.
Mais le
christianisme a commencé à se diffuser. Oui, bien sûr, diffuser, c'est à peu près vers la fin des 4000 ans. C'est-à-dire, tout a été mis en place, et puis à maintenant commence la pulsion messianique. Alors, la pulsion messianique, elle prend différentes formes. N'est-ce pas ? Ça aurait pu d'ailleurs être plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir de l'an 4000, le Mashiach peut venir. Par Korva, c'est avant. Ce qui explique l'échec. C'est-à-dire, l'erreur de Rabbi Akiva, s'il y en a eu, c'est d'avoir pensé que le Mashiach pouvait être amené avant que passe 4000 ans. C'est ça le chidouche. Ça ? Hein ? Alors, Saint-Cyril, on avait étudié ce problème. Saint-Cyril, c'est encore plus ancien. Mais on avait dit que si le roi avait fait l'effort de dire le Hallel, ça aurait pu changer. D'accord ? Ouais. Ben parce que c'était pas nécessaire. Le Talmud, c'est quoi ? C'est l'explication de la Mishnah. C'est la base du Limoud. Non, la base du Limoud, c'est le Tanakh et la Mishnah. Quoi ? C'est-à-dire, ce que vous affirmez, c'est qu'il n'y a pas de Limoud dans les Yeshivot ? C'est grave. Non, non. J'ai essayé de comprendre, simplement. Est-ce qu'on peut étudier la Guémara sans avoir étudié la Mishnah ? Certains le pensent. D'ailleurs, il y avait un des grands maîtres du judaïsme, le Maharal de Prague, qui s'était insurgé contre ça. Il disait, les gens étudient la Guémara sans étudier la Mishnah. Et il a voulu renverser cette tendance, mais il disait, si on ne demande aux gens d'étudier que la Mishnah, ils ne le feront pas, parce que c'est trop simple, dit-il. Alors il a demandé à un élève à lui, Rabbi Yom Tov Lipman Heller, d'écrire un commentaire lamdani, érudit, sur la Mishnah, qu'il a appelé Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov pour que les gens se mettent à l'étude de la Mishnah. Est-ce que ça a marché ? Oh, ben, je suppose que oui, si le Maharal l'a demandé. D'accord ? Bon. Hein ? Je pense, non, c'est vrai ce que je dis. Bon. Donc, c'est qui élève Shani Benecha, qui est ça. Alors, donc, il y a Alpaim Tohu, Alpaim Torah, Alpaim Yemot HaMashiach. Le Maharal explique que c'est parce qu'en toute chose, il y a toujours un début et une fin et un milieu. Et le début, en tant que début, par définition, ne donne pas de direction. Il n'est que début. Donc, on ne sait pas vers quoi on va. Et la fin, eh bien, c'est toujours une fin. C'est-à-dire, la fin donne toujours le sens. Tout à la fin s'explique. Donc, il y a le Yemot HaMashiach. Et puis au milieu, il y a la substance même de la chose, la chair de la chose. Eh bien, c'est la Torah qui nous donne le contenu de la vie. C'est pour ça que la Torah se donne au milieu. Les deux temples de Jérusalem ont tous, ainsi que le Mishkan, tout ça, ça s'est passé pendant le troisième millénaire. Non, pas dans le Mishkan, non, mais les deux. Le Beit HaMikdash HaRishon et le Beit HaMikdash HaSheni, tout s'est passé entre l'an 3000 et l'an 4000. Pardon, donc, je veux dire, pendant le quatrième millénaire. Il y a un sens à ça. Petite remarque aussi à propos de la division de l'histoire, je voudrais quand même faire une petite remarque à ce propos. Vous savez que dans le livre de Kohelet, on parle de 28 itim, 28 moments dans l'histoire. Et la ledet va être la mout, et la ta'at va être la cornatoua. Le temps d'enfanter, le temps de mourir, le temps de planter, le temps de déraciner. Et ça finit là-bas, les 28 itim finissent par et milchama va être shalom, le temps de la guerre, le temps de la paix. Alors certains affirment que les 28 moments en question divise l'histoire en 28 parties. Ce qui fait que chaque partie de l'histoire serait 217 ans et des poussières. Si vous prenez 6000 et que vous divisez par 28, ça vous donne 217 ans et des poussières. C'est ça ? Et donc là, vous pouvez être encore plus précis que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors une fois j'ai fait ce calcul aussi, j'ai vérifié ce qui s'est passé à chaque fois pendant les 217 ans. C'est très surprenant, ça correspond exactement à ce que dit Kohelet. Ouais. Intéressant quand même.
Et là, on est dans...
Ah, là, on est dans Et Milchama. Et Milchama, c'est dans la 27e partie, qui a commencé en 1812, avec l'invasion de la Russie par Napoléon, et qui doit se finir vers 2026. Non, pas seulement les deux guerres mondiales, les guerres napoléoniennes, etc. La bombe atomique, tout ça, ça s'est passé pendant le Et Milchama. N'est-ce pas ? Donc ça peut vous dire qu'en 2026, Et Shalom, tout ira bien, le Beit HaMikdash sera construit. Ça vaut la peine, non, quand même ? Ah non, les croisades, c'est autre chose. Les croisades, j'ai oublié. J'ai écrit ça, j'ai un papier comme ça à la maison, où j'ai tout écrit, tout ce qui s'est passé, y compris les croisades. Ça correspond, mais alors c'est absolument sidérant comment ça marche.
Vous êtes dit que le premier, c'est le temps
d'être. Être la ledette. Oui, être la c'est le temps où Adam Arishon est né.
Et de mourir immédiatement.
Non, être la mout, c'est 217 ans plus tard.
Oui, mais ça correspond.
Ben, ça correspond à l'inondation du temps de Enoch, qui a fait disparaître un tiers de la des terres émergées. D'accord. Et donc, vous avez tout ça. Mais enfin, par exemple, Et Kenos Avanim, c'est la tour de Babel. Enfin, il y a des choses comme ça. Bon. Mais bon, il faudrait rentrer dans un peu plus de détails. Ça, on verra par la suite. Ah, c'est juste, on vient de finir la page. Hop. Baruch Adonai Elohim Olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanania, Ben Akashia Omer. Ratzah, Kadosh Baruch Hu. Le Jacob d'Israël.